Bonjour à tous, bienvenue dans 7 jours dans le monde sur BFM Business. C'est le nouveau nom de l'émission que vous connaissez depuis une dizaine d'années. Good Morning Weekend. Alors, le principe, il reste le même, hein. C'est toujours à la radio, mais la nouveauté, c'est que ça passe à la télévision désormais avec 4 diffusions durant le week-end. Alors, même principe, hein. On revient évidemment sur l'actualité internationale de la semaine qui va nous emmener aussi bien en Syrie dans un instant avec la mort de l'un des cadres de l'État islamique, en Turquie où l'armée est intervenue justement de l'autre côté de la frontière en Syrie. Nous serons également au Gabon avec tous ces troubles hein, suite à la contestation de l'élection, de la réélection de Ali Bongo. Et puis direction l'Amérique également avec le Mexique. Visite remarquée de Donald Trump, le Brésil, Dilma Rousseff, destitué, puis la Colombie, avec ce cessez-le-feu entre le FARC et le pouvoir, justement, après 50 ans de conflit. C'est parti pour 7 jours dans le monde.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Et c'est parti donc pour 7 jours dans le monde avec évidemment bah, tous ceux qui nous accompagnent maintenant depuis de longues années, le matin, le soir sur BFM Business, à la radio, à la télé. Vincent Hugeux est avec nous, il est grand reporter à l'Express. Bonjour Vincent.
Bonjour Fabrice.
Vincent Hugeux avec à la une de l'Express, immobilier foncé. Tiens justement, sujet très porteur, on y consacre un long moment dans les décodeurs de l'écho cette semaine. Puis Vincent Hugeux qui vous propose eh bien la réédition en livre de poche de Reine d'Afrique, justement, eh bien voilà, oui, on parlera du Gabon d'ici à peu près une vingtaine de minutes. Hein, grosse actualité, vous le savez. Frédéric Ancel nous accompagne. Bonjour Frédéric.
Bonjour Fabrice.
Frédéric Ancel, il est professeur de relations internationales à Paris Business School, à Sciences Po Paris. Et on attend avec beaucoup d'impatience Géopolitique de la Nation France. Apparaît dans quelques jours avec qui? Avec votre maître.
Le maître de la géopolitique française, Yves Lacoste.
Voilà, Yves Lacoste. On aura l'occasion évidemment d'y revenir dans 7 jours dans le monde, dans les prochaines semaines. Alors à la une, bien entendu, je vous le disais, c'était la voix de l'État islamique, le ministre des attentats de l'organisation terroriste, l'idole quelque part aussi des djihadistes français, Abu Mohamed al-Annani, qui a été tué près d'Alep, en Syrie, annonce faite par Daesh elle-même. Alors, tué par qui? Question, bombardement russe, bombardement américain, le porte-parole du Pentagone, Peter Cook.
Nous étions activement à la recherche de Adnani depuis un moment. Compte tenu de son rôle fondamental au sein de l'organisation, je ne vais pas vous donner de détails concernant notre façon d'opérer, mais je peux vous confirmer que nous avons conduit une frappe hier visant Adnani près de Halbab en Syrie et nous continuons de débriefer les résultats de cette frappe.
Peter Cook, donc, c'est le porte-parole du Pentagone. Alors, c'est vrai que Moscou et Washington revendiquent la paternité de la mort du Syrien. C'était l'un des très proches, vous savez, du pseudo-calife al-Baghdadi. Hein. Bien, Frédéric Ancel, c'est pas le premier haut dirigeant de l'État islamique, donc, tué en Syrie, en Irak, depuis quelques semaines, quelques mois. Cette mort, elle s'ajoute aussi au recul hein, sur le terrain de l'organisation terroriste. Est-ce que c'est un nouveau coup porté à Daesh? Allez, la suite, quelque part, du déclin de l'État islamique?
Objectivement, oui, parce qu'il est très difficile de remplacer un excellent chef. Excellent, bien évidemment, entre guillemets, et en termes d'efficacité. Pas sur le plan moral, vous l'aurez compris. Et à force de prendre des coups, eh bien, effectivement, l'État islamique, alors, il en rend, bien évidemment, il en donne aussi, et c'est pas la première fois que nous avons connu une vague d'attentats, même si en France, elle a été particulièrement terrible depuis 2015. Elle l'est d'ailleurs dans d'autres pays, hein, il ne faut pas l'oublier, sur d'autres continents. Mais à chaque fois qu'un cadre supérieur, en quelque sorte, de cette organisation terroriste tombe, bien sûr qu'il sera remplacé en termes d'organigramme. Mais est-ce que le deuxième sera aussi efficace? Est-ce qu'il disposera d'une aura ou d'un prestige suffisant en interne et d'autant de compétences, parfois, pour remplacer son prédécesseur? C'est pas du tout évident. J'ajoute que ça ne manque tout de même pas de sel que les Russes et les Américains revendiquent, si vous voulez, très jalousement.
Le bombardement, la mort de ce gars-là, ouais.
C'est ça, et j'irais jusqu'à dire que, franchement, c'est l'une des premières fois, sinon la première, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, que ces deux puissances revendiquent la même chose.
En tout cas, l'État islamique est blessé, l'État islamique toujours là, hein. Je lisais ce week-end dans Le Monde, François Molins, c'est le procureur de la République de Paris, qui expliquait que cet affaiblissement de l'État islamique renforce le risque d'attentat.
Oui, c'est exact. Ça renforce le risque d'attentat pour deux raisons. D'abord parce que, bien évidemment, l'État islamique a besoin de montrer à ses ouailles en interne qu'il ne s'affaiblit pas du tout, même si sur le terrain, il perd du territoire. Et puis, il a besoin de nous montrer, à nous autres, ses ennemis implacables, et notamment les Français, puisque nous sommes particulièrement haïs et détestés, et combattus par ces terroristes, que nous devons continuer à avoir peur.
Ils ont encore de quoi résister. Sur le terrain, cette fois, je parle de la Syrie, je parle de l'Irak, au-delà, la Libye, bien entendu, et puis d'autres pays. On reviendra d'ailleurs dans un instant sur ce terrible attentat. Au Yémen, c'est en début de semaine, il y a eu plus de 70 morts. Frédéric Ancel.
Tant qu'ils ont, si vous voulez, Mossoul, Raqqa et quelques autres territoires, sur lesquels d'ailleurs ne subsistent qu'assez peu de ressources commercialisables, en réalité, ils restent effectivement redoutables. Mais le dernier point, et me semble-t-il, c'est le plus important, est le suivant. Daesh reste extraordinairement dangereux dans les esprits. Car le jour où on aura conquis Raqqa et Mossoul, et ça se fera de toute façon, eh bien, d'abord en tâche de léopard sur le plan territorial, on l'a bien vu avec la Libye, ils tenteront de s'installer ailleurs et il est inimaginable qu'ils ne parviennent pas, ici ou là, et de toute façon, ici, notamment en France, ils continueront malheureusement à faire des émules.
Ah oui, alors, on va rappeler quand même que cet individu, donc, le fameux ministre des attentats, Al-Adnani, donc, il avait fait un séjour dans une prison irakienne, prison américaine, dans les années 2009. En 2011, Baghdadi, donc, eh bien, l'avait envoyé pour rejoindre la lutte armée contre Bachar al-Assad. Il avait infiltré assez tôt la lutte contre Bachar al-Assad. Et Vincent Jeu, moi, ça me rappelle un reportage que vous aviez signé très rapidement, donc, après la révolution de 2011. On devait être en l'été 2013 à peu près, donc 2 ans à peine. Hein. Et vous aviez repéré ces fondamentalistes, justement, ces djihadistes qui avaient noyauté la lutte contre Bachar al-Assad.
Et ce, pour une raison assez simple, c'est que à l'époque, vous aviez des leaders dits modérés, voire démocrates, qui se querellaient dans les lobbies des palaces d'Istanbul. Et pour avoir discuté avec de nombreux volontaires du djihad global là-bas, j'ai entendu de manière récurrente ce discours. Écoutez, moi, personnellement, le califat, c'est pas ma tasse de thé. Je n'adhère pas idéologiquement à ce modèle de société-là, mais je vais du côté de ceux qui combattent vraiment. Et non pas du côté de ceux qui palabrent dans les hôtels de luxe turcs.
À l'époque, voilà. L'armée syrienne libre.
Absolument.
Dont on va reparler dans un instant, à propos de l'intervention turque.
Le fameux Adnani, c'est quand même lui qui, en juin 2014, donc peu de temps après cet épisode, annonce officiellement la restauration du califat et explique que celui qui a été désigné, c'est précisément al-Baghdadi, pour incarner cette sorte d'émirat postmoderne. C'est aussi celui qui passait pour le successeur potentiel au cas où. Le drone, le missile ou selon les Russes le Su-34, ce qui me paraît hautement improbable, aurait mis un terme au jour de l'intéressé. Et puis il y a derrière sa liquidation, qui a d'ailleurs été confirmée par l'agence de propagande de l'État islamique.
Ils ont voulu avoir la main en matière de communication, oui. Justement, de dire en premier, voilà, on vous annonce la main pour pas laisser la victoire éventuellement donc soit aux Russes, soit aux Américains.
Elle délivre un message qui est quand même relativement préoccupant. Alors, il est parfaitement clair, ça a été dit de manière parfaitement explicite, que l'émiettement du péril terroriste, c'est le cauchemar perpétuel des stratèges du contre-terrorisme. Néanmoins, ça signifie que l'État islamique n'est plus vraiment capable de protéger ses cadres majeurs. Ça signifie aussi sans doute que les Américains, puisqu'il s'agit vraisemblablement d'eux, ont une source d'information ou peuvent en avoir au cœur même du système dans les activités de la direction de l'État islamique. Et ceci, vrai ou faux en tout cas, ne peut qu'intensifier la paranoïa dont on sait qu'elle est le poison de ces organisations clandestines. Et dernier point, parce que vous avez souvent des conversations avec les gens que vous croisez, qui savent que vous êtes plus ou moins familier de tel ou tel théâtre d'opération, de tel conflit, surtout que l'on ne promeuve pas l'idée selon laquelle, parce que pyramidalement des têtes tombent, que tout ça fasse déliter d'un jour à l'autre.
Non, justement, Adnani, c'est celui qui avait lancé cet appel, justement, pour tuer les mécréants. Et si on n'arrive pas à les tuer avec des attentats, des armes, des bombes, avec une pierre, avec un couteau, avec une voiture, qu'on fasse ce qui s'est passé, donc, eh bien, cet été, Magnanville dans les Yvelines, ou Nice, évidemment, dans les Alpes-Maritimes. Alors, la Syrie également, on y revient dans l'actualité de la semaine, qu'on commande, donc, eh bien, dans 7 jours dans le monde sur BFM Business. C'est cet événement, depuis 10 jours, l'entrée de chars turcs dans le nord du pays, donc, à Jarabulus, donc, l'opération Bouclier de l'Euphrate, lancée par le président Erdogan lui-même.
Bakın bu sabah Ce matin, vers 4 heures, notre armée a débuté une opération de lutte contre les organisations terroristes, comme Daesh ou le Parti kurde de l'Union démocratique, dans le nord de la Syrie. Des organisations qui menacent notre pays. Et quiconque menace la Turquie trouvera une nation, ses militaires, sa police et son peuple face à lui.
Alors, Frédéric Ancel, cette opération, au départ, je dis bien au départ, hein, elle doit être ponctuelle, elle est destinée à dégager donc les djihadistes de l'État islamique de cette ville. Hein. Regardez-nous, hein, puisque maintenant vous pouvez nous suivre à la télévision sur BFM Business dans 7 jours dans le monde, la carte, hein, justement, avec la ville de Jarabulus qui se trouve juste à la frontière, donc syrienne-turque. Hein. Au départ, l'idée, c'est de dégager tous ces terroristes. Ce qu'ils ont fait, très bien, opération ponctuelle normalement, menée avec justement les rebelles de l'ASL, l'armée syrienne libre, hein, dont on parlait tout à l'heure, dont on parlait avec Vincent Hugeux, mais qui pourrait se prolonger parce que la cible, maintenant, elle a changé. Les Kurdes, directement.
Oui, enfin, elle a changé. Je pense que la cible a toujours été.
A toujours été, mais là, maintenant, elle est.
Voilà. Voilà. Alors maintenant, bah, on est. J'ai presque envie de.
Avec l'artillerie, l'aviation turque qui agissent à grande échelle contre ces Kurdes.
Oui, on y est allé très fort, et je pense que ce qui est nouveau, c'est évidemment pas l'adversité voulue, souhaitée, menée par la Turquie, et pas seulement depuis Erdogan d'ailleurs, contre les Kurdes de façon générale, du reste, mais c'est l'acceptation par les Américains et les Russes, entre nous soit dit.
Alors.
De la pénétration de l'armée, et pas seulement de certains commandos turcs en Syrie. Autrement dit, on a une acceptation des grandes puissances, en tout cas des États-Unis, ça c'est sûr, pour en échange d'une remise à niveau des rapports qui sont très dégradés ces derniers mois, donc avec entre Washington et Ankara. Et puis, les Kurdes, ils sont, une nouvelle fois sacrifiés. Il ne s'agit pas de misérabilisme, mais ça dure quand même depuis pratiquement un siècle.
Ils sont sacrifiés et on l'assume ça au niveau de la coalition, au niveau des Occidentaux, au niveau des Russes justement. On se dit, bon, allez. On laisse la Turquie faire, non?
On l'assume d'autant mieux que, de toute façon, les Kurdes ne représentent pas, pour l'instant, une force très considérable. Alors, on les arme contre Daesh, c'est pas une force considérable,
mais c'est une force quand même essentielle pour lutter contre Daesh. Les femmes, n'oublions pas les femmes kurdes qui combattent, puisqu'il y a une femme sur trois, un combattant sur trois qui est une femme, ils taillent justement ils enfoncent des coins dans les positions de Daesh.
Oui, j'ai presque envie de vous dire qu'ils ont été extrêmement utiles, ils sont encore utiles dans une large mesure, mais il faut pas qu'ils en fassent trop parce que fondamentalement, on a besoin, on considère qu'on a besoin. Moi, à titre personnel, je pense qu'on a tort qu'on en fait trop en faveur des Turcs, mais c'est un autre problème, les Américains et au fond même les Russes considèrent que la Turquie avait ce droit pour se protéger à sa frontière méridionale. J'ajoute un point si vous le permettez, c'est que Erdogan a besoin aujourd'hui, de ressouder les liens avec l'armée. L'armée a été littéralement décapitée, et aujourd'hui...
On va revenir dans un instant, parce que c'était quand même le pays au cœur de l'actualité de cet été, avec cette tentative de coup d'État. On va y revenir dans 2 minutes, Frédéric Ancel.
Erdogan a besoin aujourd'hui de mettre sur le front des jeunes officiers qui ont remplacé leurs aînés qui sont aujourd'hui en prison.
Il faut motiver un peu, voilà.
Qui attendent leur verdict dans les prétoires. Et là, il avait absolument, je crois, besoin d'une opération de valorisante pour l'armée vis-à-vis de sa population.
Oui, Erdogan, on dirait dans un sens. C'est vrai, Vincent, juste parce que dans la région, il y a aussi la grande ville d'Alep, hein, grosse ville d'Alep, on est tout près de la Turquie, hein, cette grande ville du nord de la Syrie qui est bombardée, qui est rasée par les forces du régime, au cœur de combats violents, donc avec les rebelles, ville dévastée, privée d'approvisionnement, en vivres, en essence, 1,5 million d'habitants terrés qui sont pris au piège maintenant depuis presque 2 mois, depuis le cœur de l'été, des hommes, des femmes, des enfants. Tiens, allez voir juste, si vous avez la possibilité sur Internet, le making-of de l'AFP consacré à ces enfants blessés, ces enfants syriens tués également. C'est édifiant. États-Unis, Russie, est-ce qu'ils vont réussir à mettre en place un cessez-le-feu sur Alep?
On peut avoir de manière régulière, récurrente, des cessez-le-feu tactiques. Mais ce que vous venez de dépeindre à l'instant, Fabrice, c'est au fond toute la tragédie de ce conflit. C'est que les destinées humaines, mise en valeur par exemple par ce making of, elles sont broyées par des considérations, je dirais, de type géopolitique. Et D'une certaine manière, et quoi qu'on en pense et quoi qu'on en dise au sommet de nos États, ces civils-là sont passés par pertes et profits depuis maintenant un certain nombre d'années. On voit bien, on raisonne en termes de rapports de force, de calcul, de billard à trois bandes, etc.
Quand de temps en temps on se réveille, quand on voit un petit enfant blessé dans une ambulance, donc du côté d'Alep, oui, ça secoue. Comme l'an dernier, on avait été secoué par ce petit enfant mort sur une plage de Bodrum en Turquie. Et puis, on va en attendre le prochain maintenant, hein.
Et d'ailleurs, ça nous renvoie à une question assez essentielle de la mission qui est la nôtre. Y a-t-il des gens pour dire, pour raconter, mais y a-t-il de l'autre côté des gens pour voir, pour écouter et pour entendre ? C'est quand même profondément déstabilisant. C'est une meurtrissure pour tout être humain digne de ce nom. Or, on a l'impression qu'il y a une sorte de fatalité du mal, de banalité du mal, pour reprendre un concept proverbial. Et je ne crois pas d'ailleurs qu'il soit raisonnable d'imaginer que tel cessez-le-feu qui pourrait advenir dans les jours et les semaines qui viennent annoncerait la fin du conflit et surtout une solution acceptable, à la fois humainement et politiquement. J'observe d'ailleurs au passage que on évoquait la duplicité, l'ambiguïté de la posture turque. Pour que le président Erdogan éprouve le besoin, et il l'a fait il y a encore 48 heures, de souligner qu'il combattait le fléau djihadiste et les terroristes kurdes, avec la même détermination, c'est que ça ne va pas tout à fait de soi. Mais n'oublions pas, vous y faisiez allusion, Fabrice, à l'instant, que la Turquie sort d'un été de feu et de sang. Mmh. Des experts vous disent aujourd'hui que l'existence même de l'État turc moderne aurait été remis en question en cas d'échec d'un putsch, dont je souligne au passage qui a peut-être été sous-estimé en Occident. C'est-à-dire, il y a une telle défiance fondée, pour de bonnes raisons, envers Erdogan, qu'on a peut-être à un moment donné se dit, est-ce que vraiment... Non, il y a eu putsch, il y a eu 274 morts recensés, il y a eu bombardements...
À Istanbul, Ankara, bien sûr, en pleine ville.
Et il y a ce que vous évoquiez, cette purge qui ne touche pas que l'armée,
non.
Qui touche l'université, qui touche même les lycées,
la presse, les lycées, bien entendu, la justice, par milliers, hein, ils n'ont pas juste renvoyé 2-3 gars comme ça, par-ci, par-là, à Izmir, à Ankara, à Istanbul, c'est par pelleté. Hein.
Et pendant ce temps-là, le sultan Erdogan inaugure des mosquées pharaoniques et des ponts XXL.
C'était du pain béni quand même pour lui, ce coup d'État, Vincent.
Honnêtement, Frédéric dira ce qu'il en pense. Moi, je ne crois pas. Je crois qu'à un moment donné, il y a eu une frayeur existentielle pour lui. Je crois qu'à un moment donné, il s'est dit il faut que la chose bascule du bon côté.
C'était extraordinaire. Moi, il se fait que j'étais en Turquie le soir du coup d'État. Et c'est vrai que on a vu sur la télé officielle turque TR1, la présentatrice qui passait en boucle, qui disait le communiqué des putschistes. Et sur CNN turc, il faisait une interview du président Erdogan avec FaceTime, où il diffusait comme ça, il montrait devant la caméra du réalisateur l'interview qui était réalisée par FaceTime. Alors le lendemain, le temps de la nuit, le putsch a avorté. Il est arrivé triomphant à la télévision, entouré de tous ses supporters. Mais les deux images de Erdogan à 7 heures d'intervalle, pardon, allez-y Vincent.
Non, juste point, et très rapide. Je pense que l'échec, l'avortement de ce putsch militaire ne solde pas, loin s'en faut, les soucis d'Erdogan. Et je vois dans les mois à venir pour lui deux cauchemars, deux obsessions. L'obsession récurrente d'une intensification du conflit avec les Kurdes, avec sans doute à venir des actes terroristes à l'ouest du pays, dans les villes, actes de type attentat-suicide. Et puis un autre péril, opération éclair, soit, mais une opération éclair qui dure plus de 2 semaines a déjà perdu sa dénomination. Donc une forme d'enlisement dans le contexte qui venait d'être décrit par Frédéric Ancel de cette partie-là de l'engagement turc.
Oui, mais un mot, qu'est-ce qu'il allait faire à Saint-Pétersbourg quand il allait voir Vladimir Poutine, le président Erdogan, assez rapidement après ce putsch, cette tentative de coup d'État?
Il est allé à Canossa, hein, sur qu'il est allé faire amende honorable, parce que pendant des mois et des mois, M. Erdogan a tenté de nous convaincre qu'en réalité, le fameux avion russe qui avait été
descendu au mois de novembre.
Il le méritait parce qu'il a franchi la frontière. Finalement, il présente ses excuses. Il faudrait savoir. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il a absolument besoin dans le Caucase, qu'on oublie beaucoup trop souvent, et en Syrie, à tout le moins, d'un travail commun. Il ne peut pas s'affronter longtemps et longuement avec la Russie. Et je le précise, sur les questions de l'Arménie, de l'Abkhazie, d'un Caucase que vous connaissez très bien, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible non plus sur le plan économique à terme. Et j'ajoute que les rapports exécrables avec les États-Unis rendaient la Turquie pratiquement isolée dans la région. Et je vous passe les rapports compliqués avec l'Europe. Tout à fait d'accord, il y a eu bien sûr un coup d'État, bien sûr qu'il y a eu frayeur, bien sûr qu'il y a maintenant instrumentalisation. de ça, de ce coup d'État, parce que les problèmes dont on a très bien parlé à l'instant avec Vincent, ils datent pas du coup d'État. Et l'espèce de démocrature qui se met, selon le terme dorénavant consacré, en place en Turquie petit à petit, il a commencé déjà, enfin, ce processus a commencé voilà plusieurs années.
Oui, un mot avant de partir au Gabon, ce nouveau massacre cette semaine, et j'en parlais il y a un instant, donc, perpétré par l'État islamique, hein, plus de 70 morts dans un attentat suicide à Aden. On est au Yémen, hein, c'était lundi, attentat qui visait de jeunes soldats de l'armée. Le Yémen, pays qu'on néglige complètement ici, vu de France, pays meurtri, assiégé, attaqué aussi bien par l'Arabie Saoudite, par des rebelles chiites, par des terroristes d'Al-Qaïda, oui, n'oublions pas Al-Qaïda, par l'État islamique également, oui, avec des djihadistes qui se renforcent dans le sud du pays. Vincent Hugeux.
Alors le Yémen, angle mort des tragédies du moment.
Ah oui.
C'est d'ailleurs très simplement la raison pour laquelle j'ai tenu, dans l'Express, non pas de cette semaine, mais la semaine dernière, à donner la parole à l'un des universitaires qui connaît le mieux ce pays, François Burga, pour essayer, à modeste mesure, de contribuer à sortir de l'ornière de l'oubli et de l'indifférence ce pays, dont il ne faut pas oublier qu'il est le plus pauvre de la péninsule arabique. Pour faire simple, vous avez donc un conflit entre l'ancien président Abdallah Saleh, qui est allié à une rébellion houthi, c'est-à-dire en fait une branche du chiisme de rite zaïdite, opposée au président extrêmement faible, dont le gouvernement est d'ailleurs en exil en Arabie Saoudite, Abed Rabo, reconnu par la communauté internationale. Et vous avez une coalition arabe sous commandement saoudien, qui écrase sous les bombes les positions supposées ou réelles de cette rébellion, avec un John Kerry, c'est le dernier développement, très récent, qui essaye de mettre sur la table, après l'échec de 3 rounds de négociations, 2 à Genève, 1 à Kuwait City, un nouveau plan qui consisterait donc pour ces rebelles à accepter désarmement, c'est-à-dire remise des armes lourdes à une partie tierce, en contrepartie d'une participation à un gouvernement d'union nationale. C'est juste pour rappeler qu'il y a aussi ce conflit-là.
Bon, allez, à suivre dans 7 jours dans le monde, l'ex-Good Morning Weekend sur BFM Business. Le Gabon, situation incertaine avec Ali Bongo qui revendique la victoire, de vives tensions. On continue dans un instant toujours sur BFM Business avec Frédéric Ancel et puis Vincent Hugeux, Reine d'Afrique, le roman vrai des Premières Dames. À tout de suite.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Oui, 7 jours dans le monde sur BFM Business, c'est le nouveau nom de Good Morning Weekend. Hein. Toujours à la radio, mais désormais à la télé. 4 diffusions, le principe est le même. Évidemment, on revient sur l'actu internationale de la semaine. Toujours avec nous Frédéric Ancel, hein, qui va vous proposer d'ici quelques jours Géopolitique de la nation France, signé avec Yves Lacoste, votre grand maître en géopolitique, hein, Frédéric Ancel.
Presse universitaire de France, absolument.
Voilà, Frédéric Ancel, qui est professeur de relations internationales à Paris Business School. Et puis, toujours avec nous, eh bien, le spécialiste de l'Afrique, qui est Vincent Hugeux, qui vous propose en livre de poche, donc c'est une réédition, évidemment, réactualisée, bien entendu, des Reines d'Afrique. Oh, c'était original, je vous assure, allez voir, hein. Il est allé voir, c'était un portrait, donc, eh bien, des premières dames, des first ladies africaines. Parfois, il y a une première dame, il y a même une deuxième dame. Enfin, voilà. Donc, parfois, ça se mélange un petit peu, Vincent Hugeux. Alors, le régime Bongo, bah, justement, c'est en pleine actualité. Et puisqu'on commente l'actu de la semaine, hein, le Gabon, donc, ce régime est-il égratigné? Est-il en train de vaciller? Question, évidemment. Samedi dernier, élection présidentielle à un tour, hein, face à face. Celui qui dirige le pays depuis 7 ans, le fils de son père qui était au pouvoir pendant 42 ans, c'est donc Ali Bongo Ondimba. Et puis, face à lui, Jean Ping, un ancien proche de la famille Bongo qui avait réussi à fédérer sur son nom, eh bien, le ralliement de plusieurs opposants. Mercredi, proclamation des résultats par la Commission électorale nationale. Victoire Ricarac, hein, officiellement du président sortant, 49,8% des voix contre 48,2%, à peine 6000 voix d'écart. L'opposition conteste les chiffres, Libreville s'enflamme, des heurts avec les forces de l'ordre, des émeutes, des déprédations. Ali Bongo, il appelle au calme, il appelle au respect de la démocratie.
L'élection est terminée. Le temps est venu pour nous rassembler, bâtir ensemble. Le temps est venu de panser nos plaies. Le temps est venu de laisser derrière nous toutes les invectives dues à la campagne. Le temps de l'apaisement est venu. Le temps de la réconciliation est venu. Vous pouvez compter sur moi pour être le président de tous les Gabonais.
Alors le pouvoir, il a lancé ses policiers, ses troupes d'élite pour chasser les opposants. Déjà des centaines d'arrestations, oui, plus de 1000, hein, voilà ce qu'on dit. Du côté du perdant, on appelle à la responsabilité du président sortant, Jinping.
La seule solution, c'est qu'il reconnaisse sa défaite, parce qu'il sait qu'il a été battu. Nous savons qu'ils sont au pouvoir depuis un demi-siècle, et que les mêmes méthodes, le mensonge, la fraude, deviennent congénitales chez eux.
Voilà, Jinping. Alors Vincent Hugeux, vous connaissez très bien l'Afrique, vous connaissez très bien le Gabon, même si vous y êtes persona non grata depuis 6 ans, 7 ans.
Oui, 2009.
Donc pas de visa, interdiction pour vous.
Absolument.
Voilà, Vincent Hugeux de l'Express, on le rappelle. Oui, ce qui vous empêche pas de faire de très bonnes analyses. Hein. L'avant-papier, avec les, vous aviez planté le décor. On est dedans, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on rencontre de maintenant, depuis quelques jours. Est-ce que ce scénario, finalement, oui, il était prévisible, aussi bien cette victoire revendiquée par Ali Bongo, alors à tort ou à raison, hein, c'est pas à moi de dire, jouer le rôle d'une commission électorale, hein, bien sûr, la contestation du président Bongo, les incidents, puis à attribuer à qui aussi, hein, ces heures qui sont survenues dans Libreville depuis mercredi soir.
Vous savez, parfois, on se dit qu'on adorerait s'être trompé.
Ouais.
Et j'ai rarement eu ce sentiment d'une manière aussi aiguë. Parce que, oui, effectivement, la partition était écrite. Lorsqu'on connaît un peu le mode d'évolution du pouvoir et les pratiques qui sont associées, hélas, quelle que soit la vérité des chiffres, Ali Bongo serait proclamé vainqueur. Alors, soldons tout de suite cette interrogation, qui n'en est pas une. Juste 30 secondes d'arithmétique électorale. Vous avez au Gabon 9 provinces, petit pays, hein, 1,8 million d'habitants, assis sur un pactole pétrolier qui a été fort mal utilisé dans les décennies écoulées.
80% des richesses du Gabon, c'est le pétrole.
Voilà, avec 33% de la population sous le seuil de pauvreté, cherchez l'erreur. Bien. Sur 8 provinces, aucune contestation. Résultat validé, 60 000 voix d'avance pour Jinping, le challenger, qui n'est pas un perdreau de l'année non plus.
Non.
On disait tout à l'heure, hein, l'intime et le politique inextricablement mêlés. Pour le coup, Jinping a été le directeur de cabinet, le ministre 6 fois, mais aussi, d'une certaine manière, le gendre du défunt Omar Bongo.
Marie Pascaline, voilà.
Avec Pascaline, sa fille préférée, et qu'ils ont eu ensemble 2 enfants. Je ferme la parenthèse. Et puis, il y a une 9e province, qui s'appelle le Haut-Ogoué, qui est le fief historique et traditionnel du clan Bongo, fief d'ethnie Teke.
Teke.
Bien.
Alors là, cette province, voilà, allez nous voir aussi, parce que maintenant, je le disais, c'est la nouveauté de 7 jours dans le monde, l'ex-Good Morning Weekend. Il y a des images, il y a des cartes. C'est une province qui se trouve dans l'extrême est du pays.
Hein. Il fallait donc, pour renverser la tendance, que Ali Bongo, le candidat sortant, obtienne plus de 95% avec une participation stratosphérique. Or, que croyez-vous qu'il advint ? Participation 99,6% et résultat en sa faveur 95%. C'est-à-dire, comment imaginer une demi-seconde que vous ayez sur l'ensemble du pays, à l'échelle nationale, un taux d'abstention de plus de 40% et que, par je ne sais quel prodige, dans cette province-là, justement, dont les résultats arrivent en dernier, vous avez une abstention inférieure à 1%.
1%, oui.
La messe est dite, c'est pas la peine d'aller...
99,98% de participation dans cette province du Haut. Ogoué.
Bon. D'une certaine manière, Fabrice, peut-être que Ali Bongo Ondimba entrera dans les manuels de sciences politiques avec cet exploit rarissime, avoir accompli 2 septennats, pourvu qu'il aille au bout du second, en n'ayant jamais été vraiment élu, car il ne l'a pas été davantage, selon toute vraisemblance, et selon des notes diplomatiques du Quai d'Orsay de l'époque, de la cellule africaine de l'Élysée, mais aussi des câbles venus de l'ambassade américaine qui ont été dévoilés par Wikileaks, en 2009, il est très probable qu'il avait été devancé par son ex-ami intime, André Mbaobam, aujourd'hui décédé.
Frédéric Ancel.
J'ai été très marqué au cours de la campagne électorale. Je me rends souvent au Gabon parce que j'y enseigne la géopolitique à l'université Omar Bongo, en département de géographie. Et je n'y suis pas allé, hein, pour être très honnête, là, ces dernières semaines. Mais j'ai quand même suivi la campagne de très près et ça a été une campagne relativement outrancière, sinon ordurière parfois. Et je me souviens qu'au mois de mars, Jinping, qui effectivement non seulement n'est pas un perdreau de l'année, mais qui a été dans le système, au cœur du système, qu'on entendait tout à l'heure dire... Il triche ou il vole, enfin si je ne veux pas trahir son propos, mais le pronom personnel ne fonctionne pas bien. En mars et en avril, il parlait des adversaires politiques comme des cafards. Alors si vous voulez, moi qui connais très bien le Rwanda, j'y étais il y a encore quelques heures, ce sont des termes qui sont non seulement outranciers, mais extraordinairement dangereux et qui malheureusement ont illustré la très grande faiblesse sur le fond. Là, je ne suis pas du tout non plus expert sur les chiffres électoraux, mais ce qui a traduit, ce qui a illustré la faiblesse argumentaire au cours de cette campagne.
Malgré tout, Vincent Hugeux, le clan Bongo quand même, contesté dans les urnes, mais est-ce qu'il reste populaire quand même ou pas au Gabon? Ou est-ce qu'il y a vraiment une soif de renouvellement? On le rappelle, 42 plus 7, ça fait, allez, disons, presque 50 ans que la famille Bongo est au pouvoir. Vous nous rappeliez le pétrole, très présent. On ne peut pas être du manganèse, on ne peut pas être de la richesse apportée par le bois, par les forêts. Et en même temps, donc, eh bien, une population pauvre, des infrastructures qui ne sont pas forcément au rendez-vous, avec des routes cabossées, combien de fois vous l'avez décrit d'ailleurs dans l'Express, Vincent Hugeux. Il y a quand même des soutiens, quand même, Bongo ou pas?
Mais vous savez, on est typiquement dans un système politique clientéliste et rentier. Rentier parce que adossé au pactole des hydrocarbures, mais comme le disent souvent les Africains, le pétrole c'est la merde du diable. C'est une malédiction. Pourquoi? Parce que ça induit des comportements de passivité. Vous avez des colloques à n'en plus finir sur la diversification de l'économie qui est encore embryonnaire. Alors qu'on ne parle que de cela depuis quasiment un demi-siècle. Bon. Alors, la popularité. Ce que je peux vous dire, c'est que quand vous discutez avec des jeunes Gabonais de la diaspora ou au pays, il y a une intense frustration. Elle est à la fois sociale et politique. Sociale du fait de cette distorsion invraisemblable entre l'opulence théorique et la vie au quotidien, mais il y a aussi une très grande frustration politique. Car le Gabon aujourd'hui, d'une certaine manière, est une incarnation de l'anachronisme en politique. Vous avez une tension de plus en plus forte entre des aspirations, je veux que mon vote soit traité à la hauteur de ce qu'il est, et un système d'institutions d'État qui s'y refuse. Et il est d'ailleurs assez fascinant de remarquer à quel point vous avez un éveil démocratique, pagailleux certes, contradictoire parfois, en Afrique de l'Ouest, alors avec le grand frère Sénégal qui a l'histoire politique pluraliste la plus ancienne et la plus solide, mais regardez ce qui s'est passé au Burkina Faso il y a quelques mois. Vous avez, d'une certaine manière, les derniers feux du putsch vintage, avec un officier inconnu et anonyme en treillis de combat, qui vient annoncer à la télévision nationale un texte grandiloquent écrit par d'autres. Mais tout ça, c'est terminé. Et la jeunesse gabonaise voit comment le mouvement du ballet citoyen au Burkina Faso, le « ça suffit » au Congo-Brazza, qui a échoué aussi, enfin tous ces mouvements de société civile, ont réussi à mettre en échec la tentative d'une perpétuation d'un archaïsme politique. Et ça, donc cette tension est insupportable. C'est pour ça que je pense que le temps travaille pour Ali Bongo, il verrouille et contrôle les unités spéciales de l'armée et de la police, ancien ministre de la Défense pendant 10 ans quand même, mais le vrai souci commence maintenant pour lui. Comment va-t-il aller au bout de ce septennat, alors qu'encore une fois, ce ressentiment et cette frustration sont à ce point intenses?
J'ai encore des questions à vous poser. Oui, simplement, Frédéric Ancel, il a raison, Vincent Hugeux. La gouvernance, ça va mieux en Afrique, mais il reste quand même encore quelques points de résistance, ça est là.
Et on l'a vu récemment au Tchad, oui. On l'a vu récemment au Niger, et on le voit tous les jours à Bujumbura. Oui. On le voit au Burundi, où ça Burundi, coince, entre autres pour les mêmes raisons.
Depuis un an,
on a bien sûr du socio-économique grave, de la mauvaise gouvernance, mais on a aussi là des longévités qui deviennent parfois extraordinairement contraignantes et qui sont perçues comme effectivement quelque chose, je crois que tu viens d'employer le terme de vintage, par la population qui sait parfaitement tout ce qui se passe autour, non seulement sur le continent africain, mais ailleurs dans le monde.
La France, très présente sur place, pas uniquement au travers des entreprises que sont Total, Vinci, Bouygues. Il y a des soldats français qui se trouvent dans une caserne, qui se trouvent sur la route de l'aéroport à Libreville. Il y a 11 000 Français qui vivent à Libreville. On sait qu'il y a toujours eu des liens très forts entre les politiques français, quels qu'ils soient, gauche, droite, extrême-centre, extrême-droite, extrême-gauche, les présidents de la République et puis le clan Bongo. Comment la France va-t-elle se déterminer? Pour l'instant, ce qu'on entend depuis quelques jours, c'est oui, il faut faire preuve de transparence. Oui, nous appelons à ce qu'on regarde le décompte bureau par bureau, très bien. Mais est-ce qu'à un moment, la France, elle peut appuyer sur le bouton en disant à l'un ou l'autre, eh ben, c'est fini la partie?
Je ne le crois pas. La France a été active dans la coulisse et, grâce à Dieu, discrète en public. Car vous imaginez bien que toute intervention serait immédiatement instrumentalisée sur le mode « Ah, voici l'odieux néocolonialisme qui revient en batterie ».
La France n'est plus toute seule comme coloniale, entre guillemets. Il y a les Chinois aussi, maintenant, de plus en plus présents. Hein.
Les intérêts asiatiques sont puissamment défendus. D'ailleurs, paradoxalement, aussi bien par le clan Bongo que par le clan Ping, puisque lui-même est un métis...
Tout juste d'origine asiatique. Ouais.
Alors, la France... Regardons un peu la différence entre ce qui advient en 2009 et aujourd'hui, 2016. En 2009, vous avez donc l'ineffable Robert Bourgis qui vient nous expliquer.
Robert Bourgis, c'était un avocat,
qui n'a d'ailleurs jamais plaidé sinon sa cause, mais qui était et qui reste, de cette manière, le marabout officieux de la France d'aujourd'hui. Il a toujours rêvé d'endosser le costume, peut-être un peu ample pour lui, de Jacques Faucard.
Sous De Gaulle,
bien. Donc en 2009... implicitement, il désigne Ali Bongo comme le candidat de la France. Vous connaissez la fameuse formule, hein, la France n'a pas de candidat, oui mais lequel ?
Bien. Ouais. On est sous Nicolas Sarkozy à l'époque. Hein.
Immédiatement, émeute à Port-Gentil, résultat contesté, on y faisait référence tout à l'heure, et on vise les symboles, les intérêts français, à commencer par le consulat de France qui est incendié. Bon. Mais c'est circonscrit.
Port-Gentil, c'est la grande
dans
ville.
Dans cette grande ville, ce grand portuaire, voilà. Qui est d'ailleurs... politiquement, une cité qui a toujours été frondeuse et rebelle à l'autorité de Libreville. Bien. En 2016, profil bas. Dire que on aimait le désir qui ne mange pas de pain, et moins encore de foufou, d'élections transparentes, apaisées, etc. Mais la France est dans une posture extrêmement complexe. D'autant que, quelle est l'obsession aujourd'hui de la France au sud du Sahara ? C'est la stabilité. De quoi profite aujourd'hui un Ali Bongo, un Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazza ou un Idriss Déby Itno au Tchad ?
La montée du terrorisme.
La situation géopolitique. Ils savent très bien d'ailleurs que François Hollande a d'une certaine manière délégué ses choix et ses relations à son ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, et que dès lors que vous apparaissez, si fallacieuse que soit cette lecture, comme un pôle de stabilité, vous bénéficierez, au nom de la réelle politique et avec l'usure de temps, si votre système d'État tient, d'une certaine forme de mansuétude.
Bon, et le régime vacille ou pas ? Le régime est égratigné ? Ça se termine comment ?
Écoutez, mon pari à leur hache, c'est de dire que le plus dur est passé pour Ali Bongo et que dès lors qu'il n'y a pas eu dans les heures qui suivent d'embrasement généralisé dans le pays et que son appareil sécuritaire lui est loyal, il a fait ce qu'il fallait pour, je crois que, hélas, car la morale y laissera des plumes comme souvent, il s'apprête effectivement à accomplir un second mandat.
Un mot juste sur le Rwanda auquel vous faisiez allusion il y a un instant, Frédéric Ancel, vous y étiez cette semaine, hein, un pays meurtri évidemment par le génocide il y a 22 ans, un pays qui s'est reconstruit, un pays qui se veut être un pôle de stabilité. On est dans l'Est de l'Afrique, là, cette fois.
Hein. Oui, et qui, très objectivement, l'est devenu, surtout face au Burundi que j'évoquais il y a un instant, surtout face aux côtés d'un Ouganda dont la transition est sans doute prochaine et qui n'est pas nécessairement très, très sûre, et puis surtout adossé au gigantesque Congo, dont l'État est toujours extraordinairement faible, dans lequel la situation socio-économique est toujours aussi désastreuse, notamment à l'Est, hein, dans les deux Kivus et en Ituri, et où les massacres se sont poursuivis depuis 96, un rythme absolument hallucinant. Donc effectivement, Paul Kagame, le président rwandais, joue absolument la stabilité, notamment via l'économie et la fulgurance de son économie.
Ça, Vincent,
c'est là-dessus qu'on joue.
Mais au prix d'une dérive autocratique qui interdit toute expression de dissentiment sous peine d'être accusé de révisionnisme ou de complaisance vis-à-vis des génocides.
C'est juste. Ouais. 7 jours dans le monde, l'ancien Good Morning Weekend sur BFM Business. À suivre, hein, Trump au Mexique, la paix en Colombie et la mort du président ouzbek, c'est pas forcément anecdotique. À tout de suite.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Oui, 7 jours dans le monde sur BFM Business pour avoir toute l'actu internationale de la semaine, encore pendant quelques minutes. À propos de longues sagas, de longs règnes à la tête d'un pays, puisqu'on évoquait il y a un instant le Gabon, vous le savez, direction l'Asie centrale, avec la disparition à l'âge de 78 ans du président de l'Ouzbékistan, Islam Karimov, à la tête du pays depuis la fin de l'URSS, il y a 25 ans, et même avant, puisqu'il avait présidé la République soviétique d'Ouzbékistan. Bon, c'était évidemment pas un grand démocrate, c'était évidemment pas un grand libéral. Frédéric Ancel, qui va lui succéder ? Bon, inconnu total, hein, puisque tout l'appareil d'État est muselé par la famille Karimov. Et au-delà de ça, on revient un peu au premier sujet du début de l'émission. Est-ce que l'État islamique ne va pas en profiter, justement, de cette période d'incertitude pour pousser un petit peu plus ses pions.
Ah mais non seulement l'État islamique, mais il faut revenir aux années 90. À l'époque, c'était les talibans qui avaient tenté d'entrer dans le Fergana, dans la vallée la plus riche hein, de ce pays très important en Asie centrale. Et par conséquent, là aussi, on va trouver sans doute à son successeur, dont le moins qu'on puisse penser qu'il sera tout aussi autocratique que Karimov lui-même l'aura été, au moins une qualité.
La vallée du Fergana, c'est l'extrême est de l'Ouzbékistan, à la frontière entre le Tadjikistan et le Kirghizistan, zone troublée également. Allez-y.
Absolument. Et donc on trouvera, comme on a trouvé pour Karimov, au moins une qualité, celle d'avoir bloqué et d'avoir été extraordinairement répressif face à tout type d'islamisme réel ou supposé. Il est absolument évident, semble-t-il en tout cas, que le successeur en fera de même. Et par conséquent, il bénéficiera sans doute, et ce qu'a dit Vincent il y a un instant est très important, il bénéficiera de ce point de vue-là sans doute. D'un satisfecit a priori
international pour dire ils combattent le terrorisme,
sur la stabilité. Les Russes surtout laisseront faire. Il faut bien comprendre et se souvenir que l'Asie centrale est restée pour l'essentiel extrêmement fidèle en beaucoup de points à ce que fut à l'époque l'URSS et à ce qu'est aujourd'hui encore la Russie de Vladimir Poutine.
Avec des centaines d'Ouzbeks qui combattent dans Daesh, quand Al-Qaïda également exerce son influence en Ouzbékistan, au Kazakhstan, en Kirghizie, justement. Vincent Hugeux.
Oui, alors juste pour alléger notre propos qui a quand même, hélas, c'est la réalité qu'il veut, un peu le poids du plomb parfois, l'Afrique n'a pas le monopole ni des simulacres d'élections, ni des victoires écrasantes, ni des oppositions bidons ou réprimées, ni des psychodrames familiaux. Vous évoquiez, Fabrice, la succession. Longtemps, on a cru, ce serait quand même une nouveauté sur l'échiquier politique, que ce serait sa fille, Gulnara Karimova, qui lui succéderait. Mais voilà, il y a une rupture tragique dans la famille. Voilà qu'elle a comparé son père à Staline, horreur, enferré damnation, qu'elle a accusé sa mère et sa sœur cadette, laquelle est aujourd'hui ambassadrice de l'Ouzbékistan à l'UNESCO à Paris, d'être des sorcières. Et elle s'en est prise, alors là, Oresco Reference, au chef de la sécurité du pays, sur Twitter. Et donc, la succession plonge le pays d'incertitude, même si les deux rivaux qui apparaissent émergents aujourd'hui, ce serait l'actuel Premier ministre et le vice-premier ministre.
Ouais, donc, des proches. Le régime. Et puis ailleurs, au Kazakhstan, c'est la famille Nazarbayev. Et puis, en Azerbaïdjan aussi, la dynastie des Aliyev. Allez, elle a été destituée. Fin de règne pour Dilma Rousseff, Frédéric Ancel. Fin de règne pour Lula, pour sa protégée, évidemment, qui lui avait succédé. Le Brésil, présidé désormais par Michel Temer. C'est la fin du tout social. C'est la fin d'une époque aussi.
C'est la fin d'une époque du tout social. Pas nécessairement. Non. La gauche ne sera pas forcément totalement étriée après ce long épisode Lula et Rousseff. En revanche, pour le fonctionnement des institutions démocratiques, c'est quand même pas une mauvaise chose.
Après, ça fonctionne.
Là, on ne parle pas de coup d'État.
Non.
Là, a priori, et quelles que soient les responsabilités, il est tout à fait possible de considérer que le verdict a été extrêmement sévère. Ça, c'est une autre problématique. Mais les institutions fonctionnent et il faut se souvenir que le Brésil est une très, très jeune démocratie. Jusqu'en 86, c'était la dictature qui est militaire. Ouais.
Alors, lui sera-t-il président dans 2 mois, l'iconoclaste Donald Trump, vous savez, qui continue de surprendre avec cette visite quand même très remarquée en milieu de semaine au Mexique, Mexico, reçu par le président Nieto. Voilà, donc c'est quasiment une visite d'égal à égal. Trump, c'est celui qui tense les immigrés mexicains, qui ne modère plus du tout ses discours. Qui veut faire payer Mexico pour l'érection d'un mur à sa frontière ?
On va construire un grand mur le long de la frontière sud du pays. Et le Mexique paiera pour ce mur. À 100%. Ils ne le savent pas encore, mais ils vont payer pour ce mur.
Il a l'air sûr de lui, le Mexique, il n'a pas dit encore qu'il paierait. En effet, Trump, lui, il affirme que oui, vous l'entendez, Vincent Hugeux. Bon, provocation quand même, Vincent Hugeux.
Une image.
Ouais.
Le grand quotidien mexicain, La Vanguardia, a mis en vis-à-vis 2 discours tenus à quelques heures d'intervalle. L'un au Mexique, puisqu'il avait été, lui, Trump, l'invité du président Peña Nieto du Mexique. Et ce qu'il a dit lors d'un meeting le soir même à Phoenix, en Arizona. On va du tout, tout, tout. Et là, en évidence, la duplicité qui reflète d'ailleurs des tiraillements au sein de sa nouvelle équipe de campagne. Une seule remarque. Ce meeting de Phoenix a vu l'arrivée spectaculaire et acclamée d'un certain Joe Arpaio, qui est un shérif qui revendique la reconnaissance de l'ennemi au faciès. Il revendique l'arrestation au faciès. Tout est dit.
Classique, quoi. Allez, pour finir, puisque tout n'est pas laid dans l'actualité internationale, bien au contraire, Bogota, hein, Frédéric Ancel, la fin de 50 ans de guerre après le cessez-le-feu conclu après depuis 4 ans, hein, entre les guérilleros des FARC et le pouvoir. 4 ans de négociations pour mettre fin à une guerre terrible. Hein, plus de 250 000 morts, des millions de déplacés. Allez, il y a donc de l'espoir quand même.
Non seulement il y a de l'espoir, mais il y a aussi de l'espoir avec le turbulent voisin vénézuélien. Il faut rappeler qu'entre les deux pays, il y a eu à plusieurs reprises de véritables risques de guerre. Et a priori, là aussi, la situation semble devoir s'apaiser.
Bon, Vincent Hugeux.
Je ne pourrais pas casser l'ambiance sur la Colombie, mais quid donc des 7 à 10 000 combattants démobilisés, de leur retour à la vie civile, de l'indemnisation des victimes. On a cité dans une interview du site de l'Express un politologue local, Jorge Restrepo, qui dit « Attention, le crime organisé peut tenter de faire dérailler ce processus, car dès lors que l'armée sera déchargée de ce fardeau-là, elle pourrait se tourner vers les activités délictueuses. » Un précédent négatif, c'est ce qui s'est passé en 85, lorsque les FARC ont eu une vitrine politique. Vous avez eu 3000 assassinats par des milices paramilitaires dans les mois qui ont suivi. Un signe positif, c'est le M19, lorsqu'il y a eu une mue politique, effectivement. Et d'ailleurs, l'ex-maire de Bogota était issu de ces rangs-là. Donc, tout n'est pas joué. Mais c'est vrai qu'il y a une lueur d'espoir au bout du tunnel.
Quand même. Allez, l'Express avec à la une. Immobilier foncé. Voilà. Gros dossier, évidemment. Passionnant toujours l'immobilier. Vincent Hugeux, que je remercie. Les grands reporters. Allez voir Reine d'Afrique pendant ce week-end. Réédition en livre de poche, donc de son roman vrai des Premières Dames. Passionnant. Plein d'anecdotes. C'est très drôle parfois. Oui, bah oui. Quand même. On peut s'amuser quand même. Et puis avec Frédéric Ancel, on surveille la géopolitique de la nation France. Ça apparaît dans quelques jours. Frédéric Ancel, il est professeur de géopolitique à PSB Paris Business School et puis à Sciences Po Paris. C'est fini pour 7 jours dans le monde. C'est la nouvelle version de Good Morning Weekend, évidemment, à la radio, à la télé. Bon week-end à tous.
BFM Business, 7 jours dans le monde.